Toute cette histoire est absurde. Voilà ce que doivent penser les deux disciples qui quittent Jérusalem en direction du village d'Emmaüs. Nos deux personnages s'étaient sans doute fait une représentation assez précise de la manière dont Jésus pourrait jouer un rôle dans leur vie et aussi dans la société de leur époque. Et voilà que les événements prennent une tournure imprévue. Oui, Jésus avait bien annoncé sa mort, mais les deux amis n'avaient pas pensé qu'elle surviendrait de cette manière-ci, ni à ce moment-là. Et surtout, ils n'avaient pas anticipé ce sentiment de désespoir et de solitude qui les écrase et qui rend leur marche tellement difficile. Jésus avait aussi annoncé sa résurrection au troisième jour. Or, le troisième jour arrive à sa fin et rien. Rien de tangible, rien de visible, rien d'évident. Rien pour illuminer cette sombre journée. Oh, ils s'étaient bien imaginé que suivre Jésus ne serait pas une sinécure. Mais de là, à supporter de le voir condamné à une mort aussi indigne, il y a tout de même une distance qu'ils ne pensaient pas devoir franchir. Ils savaient aussi que si Jésus avait pu être éliminé aussi facilement, c'est parce que personne ne s'était révolté pour protester contre sa crucifixion. Personne. Pourtant, quelques jours auparavant, il enseignait encore les foules venues l'écouter en nombre. En plus d'avoir été mis à mort, Jésus risque de laisser le souvenir d'un imposteur et d'un blasphémateur, un agitateur, qui n'aura probablement jamais de place dans la mémoire collective. Les deux disciples quittent donc Jérusalem, le cœur alourdi par le poids de leurs illusions perdues. Ils laissent derrière eux la ville de toutes les promesses, le lieu où ils auraient pu mener triomphalement leur mission, et ils s'en vont. Ils vivent ce que chaque être humain vit lorsqu'il n'arrive pas à intégrer un événement traumatisant dans la trame de son récit de vie. Ce qui pose problème, ce n'est pas tellement l'événement lui-même, mais le fait qu'on ne puisse pas le faire entrer dans une histoire qu'on a envie de vivre. Alors ils ressassent leur déception. Et Jésus les rejoint, mais ils ne le reconnaissent pas. C'est une manière de nous dire, à nous, lecteurs du XXIe siècle, que la résurrection qui est au cœur de notre foi ne relève pas de l'évidence. Il ne suffit pas de regarder pour voir. Le ressuscité n'entre pas dans notre vie comme un phénomène observable. La résurrection n'est pas un spectacle, et nous n'en sommes pas les spectateurs. Jésus n'apparaît pas dans cette histoire comme une réalité extérieure qui s'imposerait à la conscience des deux disciples. La présence du ressuscité se dit pour eux dans une invitation à faire le rappel de leur désespoir. Alors ils déroulent les derniers événements sans que l'on sache très bien ce qu'ils peuvent signifier pour eux. Ils livrent à Jésus des éléments du récit de leur vie, non pas comme s'ils avaient été ses proches compagnons, mais un peu comme s'ils lui lisaient un journal. Ils égrènent des faits bruts, sans pouvoir leur donner du poids. Alors Jésus se fait l'interprète de la tradition dans laquelle s'enracine justement la foi de leur peuple, pour éclairer leur vie présente. C'est une manière de leur dire « Votre histoire a un sens, qui s'inscrit dans une histoire plus vaste, qui a aussi un sens. Non, vous n'avez pas été abandonnés au chaos des aléas et à la volonté des puissants de ce monde. Votre avenir n'est pas fermé, il est pavé de promesses. » Ce qui est intéressant, c'est qu'en voyant ses disciples perdus dans leur incompréhension, Jésus ne commence pas par brandir les Écritures comme une autorité extérieure à laquelle il ne pourrait pas résister. Loin d'une approche dogmatique, il commence par s'intéresser à ce qui occupe l'esprit de ses amis, à ce qui les tourmente, à ce qui les empêche d'être heureux, bref, à ce qu'ils vivent dans leur chair. Nos textes bibliques ne sont pas des compilations de vérités prêtes à consommer. Ils sont le reflet d'une promesse qui veut rejoindre notre intime espérance et s'imprimer dans les replis de notre histoire. De la même manière, le récit des disciples d'Emmaüs ne met pas en scène une vérité écrasante qui s'impose à des consciences meurtries pour les éclairer de force, comme un gros projecteur. Non, il nous raconte une rencontre et un dialogue entre le désir d'une vie pleine de sens et un amour qui veut le rejoindre. Les deux marcheurs sont rejoints dans leur révolte et dans leur besoin de trouver une raison de vivre et d'espérer. Alors nos deux marcheurs deviennent des pèlerins. Leur fuite se transforme en recherche. Ils trouvent le courage d'imaginer un horizon au-delà de l'absurdité apparente des événements, même s'ils ne savent pas encore très bien lequel. Ils prennent goût à cette quête. Alors ils demandent à Jésus de rester avec eux. Mais c'est au moment de partager le repas que les pèlerins reconnaissent vraiment Jésus comme celui qui a exercé un réel impact dans leur vie. Il y a tout d'abord ce geste qui rompt le pain. Une lecture superficielle pourrait laisser croire que Jésus leur adresse simplement une sorte de piqûre de rappel qui déclenche une impression de déjà-vu, comme lorsqu'on peine à identifier une connaissance qu'on n'a pas vue depuis longtemps et qu'un détail familier nous reconnecte à nos souvenirs. Mais ce qui se passe ici est beaucoup plus profond. En rompant le pain, Jésus fait mémoire de son corps qui a été brisé à la croix. Il rappelle qu'il a donné sa vie pour rester fidèle jusqu'au bout à son message d'amour. Mais le message d'amour de Jésus, ce n'était pas que des paroles, c'était aussi des gestes, des attitudes et une certaine manière de se comporter avec ses semblables. Jésus aimait s'attabler avec toutes les personnes qu'il rencontrait, sans exception. C'était une manière de dire qu'il portait la même considération à chacune et à chacun. Quand Jésus s'attablait, c'était pour dire aux hommes et aux femmes qui l'entouraient, quelle que soit ton origine, quel que soit ton passé, quelles que soient tes forces et tes faiblesses, ton âge, ton genre, ta réussite ou tes échecs, tu comptes infiniment. Quelles que soient les vicissitudes de ta vie, tu peux espérer un avenir. Et cette manière d'être accueilli donne un poids immense à la vie. C'est une expérience de renouvellement, une expérience de résurrection. Oui, la résurrection, ce n'est pas seulement un espoir un peu fou de voir sa vie prolongée au-delà de la mort. C'est d'abord une expérience de reconnaissance. Ma vie peut s'ouvrir plus largement parce que je suis aimée beaucoup plus largement que ce que j'imagine. À chaque fois que nous partageons le pain et le vin qui font référence à la personne et à la vie de Jésus, nous nous rappelons que c'est cet amour qui fait de nous des personnes à part entière. Et nous devenons témoins, à notre tour, pour les autres, de cet accueil sans limite. À ce stade de leur histoire, les pèlerins d'Emmaüs deviennent eux aussi des témoins. Ils ont enfin trouvé la force d'intégrer la mort dans leur vie pour continuer à espérer malgré tout. Ils sont morts à leur attente figée. Ils sont morts à une certaine vision du monde, ils sont morts à leur rêve déchu, mais peu importe, ils ne se sentent pas pour autant abandonnés. Leur vie s'ouvre à d'autres possibilités. C'est le moment où le Jésus du passé laisse place au Christ de la foi. À la suite des témoins d'Emmaüs, nous nous retrouvons pour dialoguer avec la tradition qui nous porte, pour faire mémoire de celui qui a accepté la mort, pour ouvrir notre espérance au-delà des évidences, et pour nous accueillir mutuellement autour de la table à laquelle personne n'est refusé. Nos communautés sont des lieux où sont mises en échec chaque dimanche les logiques d'ostracisme et les politiques d'exclusion. Nous ne sommes pas seulement un petit groupe de gens de plus en plus restreints qui se réunit pour égrener le chapelet de ses croyances, protégé par un État-providence qui lui garantit sa liberté de culte et à qui il doit tout. Nous portons au cœur du monde l'exigence d'une bienveillance sans limite qui refuse d'enfermer les êtres dans leurs erreurs et dans leurs échecs. Nous sommes les artisans d'une dynamique de pardon capable de restaurer les liens et le désir de vivre. Nous sommes les témoins d'un amour capable de bousculer l'ordre du monde lorsqu'il ne permet pas à chaque être d'y vivre dignement. Et il n'y a pas de mort qui puisse empêcher un tel amour. Amen.